Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, ce cluster géant à Saint-Etienne.
Multiplication de cas de Covid après une soirée étudiante. 150 jeunes réunis dans un petit appartement. Leur école de commerce est obligée de fermer. Le coup d'envoi du procès d'une anesthésiste qui avait opéré sous l'emprise de l'alcool. Une jeune maman est décédée, c'était il y a 4 ans. Et puis nous retournerons dans les Alpes-Maritimes. Dans un village privé de tout, l'eau se prend désormais à la fontaine et le pain se cuit dans un vieux four à bois.
RTL Matin.
Mais tout d'abord, direction Montbéliard, où un médecin qui a largement dépassé l'âge de la retraite, il a 76 ans, poursuit ses consultations, mais en extérieur. Vous allez vite comprendre comment. Vu son grand âge, c'est lui qui le dit, il ne veut prendre aucun risque. Samuel Goldschmidt.
Le docteur Thuaillon a de la chance. Son cabinet est au rez-de-chaussée de son petit immeuble et depuis le déconfinement, il consulte avec son masque et depuis son balcon. Et les patients ont pris le pli.
Bah, c'est drôle. On vient comme ça devant le balcon et comme il nous connaît, il sait à peu près quelles questions poser. Voilà, tant qu'il pleut pas trop, ça dérange pas tant que ça.
Pour le médecin, ses consultations au grand air sont un moyen de continuer son activité dans ce cas.
Ben, c'est pour me protéger moi déjà, premièrement. Vu mon âge, vu mes 76 ans, si je l'attrape, c'est même pas la peine. Hein. De toute façon, le cabinet sera définitivement fermé. Hein. Si je l'attrape, c'est terminé. Donc je sors, je prends l'attention dehors, j'examine dehors, enfin j'auscule dehors, on discute. D'un autre côté, si vous voulez, ça peut servir d'exemple, c'est encore mieux. Parce que pour vaincre ce virus, c'est facile à vaincre comme tout, il suffit d'être loin.
Dans certains cas, il emmène les patients pour suivre la consultation à l'intérieur, mais les fenêtres restent toujours ouvertes pour créer un courant.
Un reportage de Samuel Goldschmidt. Vous avez entendu ce médecin. C'est facile à vaincre ce virus, il suffit d'être loin. Une précaution élémentaire oubliée visiblement lors de cette soirée étudiante à Saint-Etienne. 150 jeunes réunis jeudi dernier dans un petit appartement. Les conséquences n'ont pas tardé. Plusieurs cas positifs. Le campus de l'EM Lyon s'est transformé en cluster. Bonjour Frédéric Perruche.
Bonjour.
L'établissement doit fermer et une enquête est ouverte.
Oui, car les images que l'on aperçoit sur les réseaux sociaux parlent d'elles-mêmes. On voit des dizaines d'étudiants entassés dans un salon qui hurle au rythme du son techno d'un DJ survolté avec casquette sur la tête, mais bien sûr sans masque. Et c'est bien évidemment le cas pour tous ces jeunes qui s'agglutinent, qui dansent les uns contre les autres dans le petit appartement de 60 mètres carrés, mais également dans le couloir, voire dans la cage d'escalier, ce qui devait être une petite fête d'anniversaire en comité restreint. Une dizaine d'étudiants à peine s'est transformée en soirée géante. Les organisateurs ont été débordé par le flux d'invités surprises alertés par les réseaux sociaux qui ont envahi bruyamment le petit immeuble et l'appartement, c'est ce qu'ils expliqueront à la police. Une enquête a donc été ouverte mais la bonne foi des colocataires n'est pas remise en cause. Les deux jeunes ont été dépassés par les événements. Difficile dans ces conditions de les poursuivre mais l'école de commerce a été fermée pour 15 jours puisque plusieurs jeunes ont été testés positifs à la Covid.
Merci beaucoup Frédéric Perruche. Le nombre de contaminations en France a atteint hier un nouveau record, plus de 18 700 nouveaux cas. Très très loin de l'Allemagne qui vient de dépasser la barre des 4000 cas quotidiens. C'est une première là-bas depuis avril.
Trois agresseurs de policiers toujours en fuite ce matin.
Ils s'en sont pris hier soir à Herblay dans le Val d'Oise à deux agents. Ils leur ont dérobé leurs armes de service et leur ont tiré dessus. L'un des deux policiers dans un état très grave, Alice Moreno.
Et le plus jeune des deux policiers a son pronostic vital engagé. Il s'agit d'un gardien de la paix touché par plusieurs tirs. Son collègue, un major, est dans un état jugé sérieux mais ses jours ne sont pas en danger. Les deux victimes qui officient à la police judiciaire de Versailles sont donc toujours hospitalisées ce matin, violemment agressés hier soir vers 22h30 alors qu'ils effectuent une mission de surveillance en civil dans une zone industrielle de la ville d'Herblay, pas d'habitation aux alentours. Ils sont pourtant repérés et pris à partie par trois individus roués de coups. Le trio d'agresseurs dérobe ensuite les armes de service des fonctionnaires et tire avec sur le binôme de policiers à plusieurs reprises. Les agents sont tous les deux touchés aux jambes. On ignore pour l'instant les circonstances exactes dans lesquelles les auteurs ont agi, pour quel motif. Ils sont toujours en fuite et activement recherchés. Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se rendra au chevet des policiers dans la matinée.
Alice Moreno.
Et on attend justement la réaction du ministre de l'Intérieur. Ce soir, il est l'invité de Thomas Soto à partir de 18h sur RTL.
Et de 3 pour Nicolas Sarkozy. Troisième jour d'audition consécutive pour l'ancien président dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007. Il se dit depuis le début totalement innocents.
RTL 8h05, l'État débloquera plusieurs centaines de millions d'euros pour reconstruire les routes et les villages des Alpes-Maritimes dévastés par la tempête Alex.
C'est ce qu'a promis hier sur place Emmanuel Macron. Le bilan humain est lourd, 5 morts et une vingtaine de personnes dont on est toujours sans nouvelles ce matin. L'un de nos reporters, Valentin Boissé, est à Fontan. C'est un tout petit village de 350 habitants, quasi inaccessible depuis les crues. Il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, alors on apprend à vivre à l'ancienne.
Remplir des bidons à la fontaine. Les habitants ont bien quelques bouteilles, mais ils accèdent aussi à l'eau potable par la source naturelle de Daniel, un octogénaire.
Moi, j'ai le captage d'eau, là. Mais pas d'autre source, j'ai avec ça. Les fontaines qui sont à côté, tu sais, on les a remis en marche. Tout ça, j'ai vu le collègue, on remet l'eau. Tu fais ça, et t'as l'eau fontaine.
L'armée vient tout juste d'apporter un nouveau colis.
Je vais, Daniel, je te le mets dans la cave, le lait.
Les plus jeunes se chargent des livraisons. Alexandre ramène avec le lait du pain. Il n'y a toujours pas d'électricité ici, alors il a dû apprendre à utiliser le four à bois communal.
Pain on cuit au feu de bois. Ma grand-mère, elle m'a dit que ça fait peut-être 40 ans qu'elle n'avait pas mangé comme ça, qu'il y a 90 ans. Hein.
Plus loin, une dizaine d'hommes s'activent. Trois maisons sont toujours isolées. Une tyrolienne est installée.
Cette tyrolienne va permettre à trois familles d'avoir de l'eau, de la nourriture plus rapidement.
Mais la situation va s'améliorer. Ce jeudi, un premier TER devrait rejoindre le village, jusqu'ici uniquement accessible à pied.
Reportage signé Valentin Boissé dans les Alpes-Maritimes pour RTL.
Dans un instant, le procès de cet anesthésiste accusé d'avoir provoqué la mort d'une femme après un accouchement. Anesthésiste qui était sous l'emprise de l'alcool, la sœur de la victime veut comprendre.
Elle savait qu'elle était alcoolique. Elle a eu l'égoïsme de dire « mais je vais quand même travailler ».
A tout de suite sur RTL, il est 8h07.
RTL Matin.
8h09, la suite du journal de Jérôme Florin. Une jeune maman morte à 28 ans suite à un accouchement. L'anesthésiste était alcoolique.
Et le médecin est jugé à partir d'aujourd'hui à Pau. Cette praticienne qui avait bu avant de venir au bloc a fait une série d'erreurs fatales. Elle comparaît pour homicide involontaire, Philippe de Maria.
Oui, cet accouchement tourne rapidement au cauchemar. L'anesthésiste Helga Wouters multiplie les erreurs sur sa patiente Xynthia Hawk. La péridurale est ratée. Le gynécologue entreprend une césarienne sous anesthésie générale. Wouters, dans un état second, intube sa patiente dans l'œsophage et pas dans la trachée. Xynthia fait un arrêt cardiaque. Pas de réaction de l'anesthésiste. Et malgré l'intervention du SAMU, la jeune femme décède trois jours plus tard. Helga Wouters admet avoir consommé de l'alcool le jour de l'accouchement. C'est une alcoolique chronique. Maître Courtois, avocat de la famille de Xynthia.
Elle nie quasiment son alcoolisme, en tout cas que son alcoolisme puisse causer des conséquences sur son travail pour la santé des patients. Sauf que la réalité, malheureusement, on la connaît. Et Xynthia l'a payé de sa vie.
Et Iris, la petite sœur de Xynthia, attend beaucoup de ce procès.
Mon neveu, il a 6 ans. C'est pas sa faute à lui. C'est pas le fait qu'elle était enceinte qui était le problème. C'était le fait qu'il y a quelqu'un qui a pris une mauvaise décision, qui a décidé qu'elle pouvait travailler ivre. Et c'est ça qui a tué ma sœur.
Helga Wouters risque jusqu'à 3 ans de prison.
Philippe de Maria. Aux États-Unis, un débat ferme mais poli cette nuit entre les numéros 2 de la campagne. Le vice-président Mike Pence face à Kamala Harris qui prendra sa place en cas de victoire de Joe Biden. Pas de nom d'oiseau, mais la présence sur le plateau d'un volatile,
ah bon,
une mouche en l'occurrence, qui restait 2 minutes sur la chevelure bien blanche du vice-président. Mike Pence qui a mis en garde les Américains en cas de victoire de Biden et de sa colistière.
Joe Biden et Kamala Harris.
Ils veulent augmenter les impôts, enterrer notre économie. Le retour de l'Amérique est en jeu. Kamala Harris, elle a critiqué la gestion de la pandémie. Les Américains ont été les témoins du plus gros échec d'une présidence dans l'histoire de notre pays. À noter que pendant ce temps, Donald Trump tweetait frénétiquement des vidéos à sa gloire. Le sport et le retour gagnant des Bleus hier soir au Stade de France qui n'ont fait qu'une bouchée des Ukrainiens. 7-1, doublé d'Olivier Giroud. On retrouvera les Bleus dimanche au Stade de France, toujours contre le Portugal. Et puis le patron de Mediapro, qui avait acquis les droits de diffusion du foot français avant le coronavirus, veut renégocier le prix. Il a demandé un délai pour régler son échéance du 6 octobre. Le contrat a été établi dans des conditions qui n'ont rien à voir avec la situation actuelle. Voilà ce que dit le patron de Mediapro ce matin dans l'équipe.
On termine avec l'histoire du jour.
Imaginez-vous qui nous écoutez peut-être dans votre salle de bain, vous sortez de la douche et vous tombez nez à nez avec un Python royal.
Ah,
c'est ce qui est arrivé à un étudiant de Craponne, près de Lyon, qui a vu sortir l'invité surprise de la ventilation. Belle bête de 70 cm de long. Elle a été confiée aux pompiers et attend toujours son propriétaire.
C'est un serpent python. C'est un python serpent qui se promène dans la forêt en cherchant à dévorer un beau petit.
Et ben voilà, ça nous permet d'écouter Charles Trenet.
Absolument. Et c'était donc.